Je crois qu'il y a encore une pandémie, donc il y a une radiographie du coronavirus. Et c'est avec vous, Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous nous parlez des visons qu'on abat par millions de peur d'une nouvelle souche épidémique.
Oui, après les Pays-Bas cet été, Guillaume, qui ont abattu 1 million de visons d'élevage sur leur territoire, il y a eu le Danemark cet automne qui a abattu pour le coup la totalité de ces 17 millions d'élevages. Puis c'est arrivé en France où nous avons tué 1000 visons sur l'un des 4 élevages français après des signes de contamination. Évidemment, eh bien, est née une sorte de paranoïa, si vous voulez, d'un virus de visons mutants qui nous infecterait tous et nous rendrait tous encore plus malades que nous le sommes déjà. Et particulièrement, cette paranoïa est venue après l'identification d'un cluster particulier au Danemark lié à ces élevages de visons. Le 5 novembre, on l'a appelé le cluster 5, 12 personnes qui ont été contaminées avec une souche du SARS-CoV-2 qui était issue de ces visons et dont il a été dit de cette souche qu'elle serait plus résistante et qu'elle pourrait du coup mettre en péril la stratégie vaccinale. Et donc, il nous a semblé important ce matin de faire le point sur la réalité de ces mutations et les risques réels, eh bien, qu'elles pourraient faire courir à nous autres pauvres humains.
Alors, est-ce que le virus a vraiment muté chez ces visons, Nicolas ?
Alors oui, le virus a vraiment muté, et pour bien comprendre, il faut refaire un point sur ce qu'on appelle le saut d'espèce. On en a parlé avec Sophie Le Poder, qui est professeure de virologie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort et chercheuse en virologie. Et elle nous a expliqué que le saut d'espèce, c'est quand le même virus passe d'une espèce à une autre. Par exemple, de la chauve-souris à l'humain, ça n'est pas un saut d'espèce parce que chez la chauve-souris, ce n'est pas le même virus, ce n'est pas le SARS-CoV-2. C'était un virus distinct. D'où la nécessité de ce fameux hôte intermédiaire dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, dont on a pensé que c'était le pangolin, mais dont a priori on sait qu'aujourd'hui ça n'est pas vraiment le pangolin, qui a modifié le virus de la chauve-souris pour que, in fine, il puisse contaminer l'être humain. Et chez le vison, eh bien, c'est bien le SARS-CoV-2, c'est pas un virus distinct. Et donc, du coup, ce qui se passe en termes de virologie, c'est que pour s'adapter à un nouvel hôte, le virus donc va muter par la sélection naturelle. Hein, c'est que d'un seul coup, il y a un virus qui change un petit peu et qui devient plus adapté à une espèce qu'à une autre. Et parce que entre certaines espèces, par le strict hasard de l'évolution, eh bien, il y a une très grande proximité entre les récepteurs au virus. Vous savez, les récepteurs, c'est en quelque sorte la serrure d'entrée, ce qu'on appelle le récepteur ACE2, ACE2, et qui fait que, eh bien, en passant d'une espèce à l'autre, eh bien, ces mutations peuvent donner au virus, pour la nouvelle espèce, une sorte d'avantage évolutif. Ça veut dire qu'il va pouvoir se reproduire un peu mieux par hasard dans la nouvelle espèce. Alors, qu'est-ce qui a été constaté? Eh bien, c'est que on a trouvé précisément des mutations communes du SARS-CoV-2, du vison, chez plusieurs cas humains. Il y a deux types de mutations. Il y a une mutation, en l'occurrence, qui a été retrouvée chez 300 personnes, ce qui n'est pas complètement rien. Mais chez ces 12 personnes, chez le fameux cluster 5, c'est carrément 5 mutations communes qui ont été retrouvées. Et ces mutations, elles s'effectuent sur la protéine S. Vous savez, la protéine S, c'est la clé de cette fameuse serrure ACE2, ACE2. D'où l'inquiétude des virologues, puisque comme c'est à cette protéine de surface, la protéine S, que se lient les anticorps pour neutraliser le virus, eh bien, s'il y a des mutations qui ont lieu sur cette protéine, les anticorps pourraient devenir un peu moins efficaces parce que, eh bien, la clé aurait changé un petit peu. Et si les anticorps sont moins efficaces, alors évidemment, en bout de course, eh bien, la vaccination qui joue exactement sur la réponse immunitaire acquise et donc sur le développement d'anticorps pourrait, elle aussi, devenir moins efficace.
Donc, alors, si je vous suis bien, Nicolas, ces mutations chez le vison rendent bien le coronavirus plus dangereux.
Théoriquement, Guillaume, ce que l'on a constaté, c'est que dans ce cluster 5, le virus présente, je cite les autorités sanitaires danoises, une sensibilité modérément réduite aux anticorps neutralisants. Modérément réduite, hein, ça ne veut pas dire que le virus va devenir d'un seul coup totalement létal. Autre élément essentiel de ces autorités sanitaires danoises, c'est que aucun autre cas de cette mutation cluster 5 avec les cinq modifications du virus, les 5 mutations, n'a été détecté depuis le 15 septembre chez les humains. L'institut donc en charge des maladies infectieuses au Danemark estime que la mutation du cluster 5 est très probablement éteinte. Alors il reste du coup les 300 échantillons qui contiennent une seule de ces mutations du cluster 5, mais 300 cas sur la population d'un pays, c'est une faible prévalence, c'est très peu de cas en fait. Et une étude à ce sujet conclut que cette faible prévalence suggère du coup que cette mutation n'augmente a priori pas la transmissibilité du virus, parce que si ça donnait un avantage évolutif, ce serait pas 300 cas, ce serait des milliers de cas qu'on constaterait. Il y a donc aucun élément aujourd'hui qui n'indique que cette mutation cluster 5 ne mette en péril ni la vaccination à venir, ni ne relance une nouvelle vague épidémique qui serait plus résistante sur le territoire européen.
Bon, mais alors, si ça n'est pas si grave que ça, Nicolas, pourquoi fallait-il tuer des millions de visons ?
Eh bien, pour une raison très simple, Guillaume, c'est la crainte que le vison ne devienne un nouveau réservoir viral animal incontrôlé. Il s'avère que le Danemark, c'est le plus gros exportateur de visons au monde. Et si on laisse filer un variant qui touche qui plus est cette fameuse protéine S, même si a priori ça ne change pas beaucoup la létalité ou l'infectiosité du virus, eh bien, on prend le risque de laisser filer et de laisser se diffuser le virus à l'international avec l'exportation des visons. Et donc, ça risque de créer un réservoir animal qui pourrait régulièrement relancer, si vous voulez, la circulation du virus, alors que nous, de notre côté, on s'acharne à la réduire chez l'être humain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vison, ça n'est pas le seul animal qui peut être infecté par le SARS-CoV-2. On en revient au saut d'espèce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a une étude en août dernier qui a été faite sur la base, justement, des similarités de ce fameux récepteur ACE2, de cette fameuse serrure d'entrée du virus chez différentes espèces. Or, on constate, suite à cette étude, qu'il y a certains animaux qui sont plus à risque, non seulement d'être récepteurs, c'est-à-dire de pouvoir accueillir le virus qui se multiplie en eux, mais également d'être infectés, les deux n'étant pas liés. Certains animaux peuvent juste être des récepteurs du virus sans développer l'infection. On apprend sans grande surprise que les grands singes sont évidemment les plus à risque parce qu'ils sont très proches de nous, alors que les rongeurs ou les oiseaux sont très peu à risque de développer une infection au SARS-CoV-2. Vous serez ravi par exemple de savoir, Guillaume, qu'il y a plus de chances qu'un dauphin ou qu'un fourmilier développe le Covid qu'un alligator. Donc si jamais vous avez des animaux familiers chez vous, faites attention. Plus sérieusement, il est important, vraiment essentiel, de ne pas créer d'autres réservoirs animaux, surtout en captivité. On pense évidemment à l'élevage. Chez le cochon par exemple, le cochon peut recevoir le virus, il peut y avoir une multiplication virale, mais pas d'infection. La responsabilité dans cette histoire, c'est une responsabilité évidemment des élevages intensifs de ces pauvres visons, puisque pour l'heure, dans l'état actuel de nos connaissances, et jusqu'à preuve du contraire, depuis le début de la propagation épidémique, le SARS-CoV-2 est un virus à transmission interhumaine, et les cas de contamination animale viennent presque toujours de l'homme vers l'animal, et non l'inverse.
Et on termine, Nicolas, avec la fake news de la semaine. Un document du ministère de l'Intérieur circule sur les réseaux sociaux et envisage d'ores et déjà la date d'un troisième confinement.
Alors c'est un très beau cas d'école de propagation d'une fake news, cette histoire, Guillaume, puisque ce document est un faux qui a été produit à visée pédagogique. Je vous explique. S'il s'agit d'un document avec effectivement une en-tête du ministère de l'Intérieur qui est adressé au préfet et qui affirme que, je cite, le Conseil de défense a statué pour un troisième confinement au 12 mars 2021. Ce document, en l'occurrence, a été produit par un internaute sous le pseudonyme de G1000gram. Évidemment, en référence, je ne vous cache rien, Guillaume, à Stanley Milgram et à sa fameuse expérience de domination sociale. Et cet internaute a voulu démontrer la propagation de fausses informations sur le net. Pour preuve, dans le logo du ministère de l'Intérieur sur ce document, il a dissimulé un petit code Morse. Et si vous lisez ce code Morse, ça signifie faux, tout simplement. Et il a appliqué tout un tas de méthodes pour viraliser ce document. Le fait qu'il soit de très mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'à moitié flou pour faire plus réaliste, il l'a posté sur seulement 4 pages Facebook et Twitter. Et pour constater qu'en quelques jours, ce document a été partagé des milliers de fois. Alors vous allez me dire, c'est complètement stupide de faire ce genre de choses parce que ça contribue de facto à la désinformation. Mais ce fameux G1000gram a produit une vidéo de debunking où il explique en quelques minutes que c'est un faux et comment il l'a produit, de façon à ce que les gens qui identifient des amis ou des connaissances qui publient ce faux puissent poster en réponse ce petit message vidéo qui prouve qu'ils se sont fait avoir et que l'information a été complètement bidonnée. Ce qui nous conduit donc aujourd'hui, si je résume, à débunker du débunkage. Est-ce que cette spirale infernale prendra fin un jour? Je ne sais pas, Guillaume, je ne suis pas sûr.
Bon, vous pensez qu'on vous entendra la semaine prochaine? Bon, peut-être que la pandémie sera éteinte, on ne sait pas encore, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas Martin, 7h24 sur France Culture.